On continue notre petite étude sur les différentes positions qu'on a en Jésus. Il en reste encore quelques-unes à voir. Des fois, ça ressemble à d'autres, mais il y a toujours un développement dans un avenue un petit peu différente. Puis dans cela, ça nous fait voir, en général, comment est-ce que le Seigneur nous voit, nous considère. Parce que la nouvelle vie qu'on a en Jésus, c'est quelque chose de nouveau que Dieu a préparé pour spécifiquement pour son Église, pour ceux qui sont nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle création. On ne parle pas de s'améliorer avant de qu'on connaisse le Seigneur, puis on vient au Seigneur, puis c'est juste pour nous améliorer. Ça n'a pas rapport à une amélioration. Quand on vient au Seigneur, on est mort à soi-même, on est enterré. L'ancien Daniel Poulain, il est mort. Maintenant, on est ressuscité en une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est quelque chose de nouveau que le Seigneur va faire dans notre vie. Un changement, une transformation, un processus qui nous amène à devenir dans la plénitude de l'appel de Dieu pour notre vie. Dieu, il y a un plan pour ma vie. Amen. Il y a un plan pour votre vie individuellement. Puis il veut vous amener là. Puis c'est ensemble qu'on apprend à éplucher la parole de Dieu pour grandir, pour apprendre à connaître jusqu'à où que ça va, ce que je peux faire dans ce monde. Le sujet qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est que nous sommes, grâce au Christ, devenus des administrateurs pour le Seigneur. Là, on va voir quand on parle d'administration, aujourd'hui, on pense tout de suite comptable, tenue de livre, les chiffres. Mais d'administration, c'est bien plus que juste la question de la comptabilité. D'être un administrateur, c'est être des bons gérants, des personnes qui gèrent ce que Dieu nous a confié individuellement. Selon l'appel qu'il a mis sur notre vie, il a mis un dépôt en nous, puis on devient des administrateurs. Des gens qui doivent être capables d'administrer de la bonne façon pour arriver à produire le plus possible pour le Seigneur. Prenez-vous au sérieux ce que Dieu vous a donné. Parce que des fois, on se dit, c'est à moins Dieu, mettons, là, j'ai des choses que j'ai, c'est à moins, puis j'en profite, puis je dilapide les biens du Seigneur, ou je démolis ce qu'il m'a donné, ou j'entretiens pas ce qu'il me donne pour pouvoir que ça grandisse, que ça se multiplie. Il y a différentes manières qu'on peut percevoir notre vie chrétienne. Puis là, Dieu veut nous amener à ce qu'on pense de la façon dont lui voit les choses. Puis à ce moment-là, on a besoin de comprendre que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, est au Seigneur. Puis maintenant, c'est comme si Daniel Poulain, il est mort en venant à Jésus. Puis là, il y a une nouvelle vie qui a commencé. Puis là, Dieu a mis des choses en moi pour partir, cette nouvelle vie-là. Puis il me dit, administre-les comme il faut. Gère ce que je viens de te donner. Puis là, ton administration, je m'attends à ce que je puisse récolter quelque chose. Êtes-vous de ceux qui mettent à profit et investissent pour Dieu afin que Dieu soit glorifié dans votre vie? C'est pas un... On peut faire bien plus, puis il faut penser de même. Faut penser de même qu'on peut faire bien plus. Si on pense qu'on a déjà atteint le maximum, on est dans l'erreur. On vient de se mettre des limites. Dieu, il veut qu'on pense beaucoup, plus grand. Il veut nous amener dans la terre promise qui est, chacun de nous, c'est différent. On est tous appelés à des tâches différentes, mais on a un objectif individuellement parlant. Dieu a un plan pour des objectifs dans vos vies. Il veut vous amener à être dans la plénitude de ce que lui s'attend de vous, pas de ce qu'un autre pense de vous. Ça se peut qu'il y a des gens qui vont vous dire « Jamais tu vas être dans le ministère » ou « Jamais tu vas être capable de faire ça. Tu seras, t'es un pas bon, t'es ici, t'es ça, puis ils te mettent des barrières. » C'est pas ce que les hommes pensent qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense. Dieu, il a un plan, puis il veut te donner un plan qu'il vient de sa volonté à lui. Puis le seul qui peut s'en empêcher d'y rentrer, c'est vous-même. Si vous écoutez pas les bonnes affaires ou si vous investissez mal dans ce qu'il vous a confié. Mais Dieu, il y a de quoi de beau et de bon, puis de grandiose, puis même ça peut être au-delà de ce que vous êtes capable de penser aujourd'hui. Peut-être qu'ici parmi nous, il y a des gens là qui vont gagner des milliers d'âmes pour Jésus. Là, on va dire, ouais, mais c'est pas évident qu'on évangélise mon passé ou on se voue des barrières, mais c'est pas qu'est-ce qu'on pense, c'est pas l'état où ce qu'on est rendu aujourd'hui qui compte, c'est où ce qu'on croit que Dieu va nous amener demain. Puis là, on s'en va dans la direction de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, afin qu'on les pratique. Puis, faut pas se mettre de barrières, faut pas laisser les gens nous mettre des barrières. J'ai déjà de quoi. Si je développe ce que Dieu a mis en moi, ça va grandir. Il y a des versets qu'il dit, puis on va en voir quelques-uns tantôt. Savez-vous que l'ensemble de l'humanité est responsable de ce que Dieu a donné à chacun et que tous devront en rendre compte individuellement? C'est pas juste les chrétiens là que Dieu regarde puis qu'il va analyser. L'ensemble de l'humanité, même si les gens se disent toute leur vie, Dieu n'existe pas, puis moi je m'en vais direct dans le cimetière quand je meurs, ça finit là, même qu'il y aura la conviction au faux Dieu qui voudra, c'est pas son faux Dieu qui décide, c'est pas ses convictions qui décident. Dieu a décidé d'amener chaque personne à comparaître devant lui et de rendre compte individuellement, chacun pour soi, pour ce qu'ils auront fait de ce que Dieu leur avait confié. Dans l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 11 et 12, ça nous dit, ça nous parle du grand trône blanc. Trône de jugement, du jugement dernier, comme qu'on pourrait dire, c'est le dernier jugement pour les personnes. Puis ça s'adresse aux non-croyants, ce trône-là. À ceux qui croient pas en Jésus, même s'ils étaient convaincus du contraire, ils n'ont pas eu le choix. Puis, ça dit, « Je veux un grand trône blanc, puis celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, puis il ne fut plus trouver de place pour eux. » Là, on voit que la création présente est disparue. Les gens, puis le grand trône blanc. Puis là, ils voyaient les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Pourtant, tout le monde disait, « On s'en va dans le cimetière, puis c'est fini là. » Non, ça finit pas là. Les gens vont comparaître devant le trône blanc, qu'ils veuillent pas, qu'ils croient pas, c'est pas eux qui décident. Dieu leur a donné la vie, puis ils sont responsables de gérer leur vie conformément à ce que Dieu dit. Pas juste les chrétiens, l'ensemble de l'humanité. Puis là, ça nous dit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire, il y a des livres qui s'écrivent à mesure qu'on vit cette vie. Puis tout ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, c'est écrit dans les livres de Dieu. On va être jugé selon nos œuvres. C'est pour ça que c'est pas à prendre à la légère, là. Que tu y croies, que tu y croies pas, faut se faire l'idée que les gens vont comparaître puis vont en rendre compte de ce que Dieu leur a donné et qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Nous aussi, en tant que nés de nouveau, des personnes sauvées par la foi en Jésus, nous devons prendre conscience que Dieu nous a maintenant déjà confiés individuellement parce qu'il nous a déjà donné, parce qu'on est né de nouveau, des responsabilités, des tâches et des missions. En tant que chrétien, c'est pas juste le pasteur qui a des responsabilités, des tâches et des missions. Chaque être chrétien né de nouveau a des responsabilités. Hey, imaginez si les gens dans le monde qui ont refusé Dieu, il y avait des responsabilités, même s'ils ne savent pas, puis ils ont à rendre compte à la fin de leurs œuvres. Pensez-vous que les chrétiens, qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut de notre vie, puis qu'il n'y ait pas de rendre compte? On a à rendre compte à la fin. C'est pour ça qu'il est important de réaliser qu'on a des responsabilités, on a des tâches à faire, puis on a des appels dans nos vies, des missions que Dieu nous demande. On est tout appelé. Puis ça, on ne le sait pas encore, mais il faut trouver notre place. Il faut prier le Seigneur, puis lui demander, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Guide-moi. Ou s'il nous manque de quoi, pour être conforme à sa parole, donne-moi ce que j'ai besoin, comme s'il manque de sagesse. Donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la connaissance, donne-moi les capacités. Faut avancer. Faut pas avancer uniquement sur le plan humain, terrestre, puis dire il faut que je me trouve une bonne job, puis s'il faut que je me trouve une bonne épouse, puis là on pense qu'on est installé là pour tout. Non, il y a beaucoup plus que juste travailler puis avoir bâtir une famille. Il y a la vie de Dieu, le plan de Dieu dans l'humanité, notre raison de vivre. On l'a déjà vu. On vit pour servir à sa gloire. Donc j'ai de quoi à faire qui va amener l'avancement de son royaume, chercher le royaume et la justice. C'est chercher ce qui fait avancer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu nous confie des dons, nous a donné des dons, des capacités. Il a déjà tout préparé. Il sait juste qu'on trouve notre place puis qu'on travaille pour le Seigneur. On l'a vu la semaine passée, on est des ouvriers. Un ouvrier, ça travaille. Il faut qu'il y ait du zèle et non de la paresse. Si on pourrait aller à l'église et être assis sur notre banc tout le reste de notre vie, être 40 ans de vie chrétienne assis sur son banc, juste le dimanche assis là, puis rester là pendant 40 ans. Oui, il y en a qui le font. Mais c'est pas ça l'appel de Dieu. Dieu veut qu'on trouve des moyens de le servir. Il y a de l'ouvrage à faire. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'édification de disciples, que ce soit dans l'entraide pour aider les gens. De toutes les façons, il y a de l'œuvre à faire. Il n'y a pas gros d'amen.
Amen.
Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. OK. Nous sommes des administrateurs de ce que Dieu nous a donné, des dons, des talents, de nos ministères, de nos vies, de notre temps, de nos biens, de notre argent. On doit administrer tout ce qu'on a parce que tout appartient à Dieu. Il nous a rachetés afin qu'on fasse plus ce qu'on veut. On veut faire ce que Dieu veut. Il nous a rachetés. On lui appartient. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est lui qui a investi en nous les moyens, la puissance, son onction, sa parole, les promesses. Il nous a équipés de toutes ses armes, sa puissance, pour qu'on soit efficace. Tout est là. On a juste à saisir. Puis si on pogne l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, puis on sait pas comment se battre, mais demandons au Seigneur comment se battre avec l'épée pour être capable de bloquer les dards de l'ennemi, puis de contre-attaquer comme Jésus le faisait avec des versets. Mais Dieu veut nous apprendre à manier l'épée. C'est écrit dans l'Ancien Testament, ce verset-là, qui rend notre main habile à manier l'épée. Il y a des versets pour toutes les choses qu'on a besoin, mais l'armure du chrétien, c'est pas une option. Faut réaliser qu'il y a un combat, puis on a besoin de s'équiper, puis on veut être des ouvriers, des administrateurs efficaces qui produisent du fruit pour sa gloire. Dans 1 Pierre 4:10 et 11, ça nous dit, comme de bons dispensateurs, le mot dispensateur que là, c'est le mot administrateur. Comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot dispensateur, comme qui a été écrit dans une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, le mot dispensateur, c'est le mot grec que là, c'est le mot économe. Trésorier, dispensateur ou administrateur. C'est tous des synonymes. Tu es un gestionnaire de la maison ou comme les affaires domestiques. Tu es un gestionnaire de ce qui appartient à quelqu'un d'autre ou soit que ça t'appartient. C'est le même sens. Comme t'occuper d'une ferme, être un surveillant, être un trésorier des finances ou un administrateur de la ville, c'est tout le même mot. Puis les apôtres, les enseignants, les surveillants dans l'Église, comme Dieu a dit dans différents passages, sont appelés des administrateurs. Mais chaque chrétien est un administrateur de ce que Dieu lui a confié. Comme dans la parabole, l'un qui avait cinq, deux à l'autre, puis un à l'autre, chacun devait administrer ce qui avait été confié. Tu es en charge, si tu n'as un talent, mais mets-le au service des autres. L'administration dans le royaume de Dieu est principalement une mission de partage avec les autres. Notre mission, peu importe le ministère que tu fais, a toujours rapport. Tu partages ce que tu as reçu, tu le partages aux autres. Dans toutes les sphères, de tous les services qu'on peut faire, c'est tu t'investis dans les autres. C'est ça la vie chrétienne. Être des gens qui vivent dans la foi au Seigneur, bien entendu, mais notre mission, c'est de s'investir dans les autres. Si tu fais de l'évangélisation, tu t'investis pour les autres, pour qu'ils puissent entendre le message. Si tu t'investis dans l'Église, que ce soit t'investir pour les enfants, t'investir pour le faire à manger, investir pour donner de la nourriture ou donner des vêtements, c'est toujours une vie versée vers les autres. Tout le monde. Si quelqu'un se dit, moi, j'ai pas besoin des autres chrétiens, puis je fais ma petite affaire tout seul, mais si vous pensez de même, vous êtes en dehors du chemin de Dieu. C'est pas des farces. Tout notre service doit être en fonction des autres. C'est ce que ça nous dit dans ce verset-là. Il dit, dans le verset 10, « Comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Tout ce qu'on a reçu, c'était pas pour moi. Ce que j'ai reçu, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Si j'ai le don de jouer de la musique, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si j'ai le don de prêcher, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si je suis capable de servir, j'ai la force, puis je sers, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est la même chose pour tout le monde qui sont assis dans l'Église. Peu importe le nombre de dons, de talents que tu as, c'est pour les autres que tu l'as reçu, c'est pas pour toi-même. Dieu nous a pas équipés pour nous grossir la tête ou de le nombril puis de se penser le nombril du monde. Oui, il y en a qui servent de leur capacité pour s'enrichir puis de vivre le power trip tout seul. Oui, il y en a qui le font. Ils exploitent les autres, mais c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on réinjecte, on se réinvestit pour les autres. C'est ça la vie chrétienne. Peu importe le ou les dons que tu as reçus, que ça nous dit dans ce passage-là, c'est même si tu en auras juste un don. Ah, ben moi, je suis pas capable de faire beaucoup d'affaires, mais le petit peu que tu es capable de faire pour les autres. Chaque fois que vous avez fait cela, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand tu sers les autres, tu sers Jésus. Ça, faut le comprendre parce qu'il faut le vivre. Il faut le vivre, frères et sœurs, parce que c'est de même qu'on démontre notre foi. On démontre notre foi en ce qui est dit en le faisant, pas juste en le savant. Le savoir, là, c'est comme le 1 Corinthiens 13, il dit même, si t'as pas d'amour, t'es rien. Si t'as pas l'amour, là, l'amour, c'est de vivre pour les autres. C'est pas l'amour de toi personnel, c'est l'amour des autres qui compte. C'est l'amour de s'aimer les uns les autres. Il y a deux sortes de travail qu'on voit dans ce verset-là. Il y a deux sortes comme de grands enlignements que tu vois là, détaillés, deux principales comme courants dans l'Église ou des façons de servir. Il y en a deux. Il y a ceux qui parlent puis il y a ceux qui servent. C'est ça qu'on voit dans ce verset-là. Dans 1 Pierre, qu'on est dans 1 Pierre 4, le verset 11, là ça nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit en annonçant les oracles du Seigneur, puis si quelqu'un remplit un ministère, ça veut dire si quelqu'un sert, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Donc, dans l'Église, il y a ceux qui parlent beaucoup, puis il y a ceux qui servent beaucoup. Puis ça fait partie du plan de Dieu, parce que Dieu a besoin des gens qui parlent. Ça prend des prédicateurs, ça prend des exhortateurs, ça prend des évangélisateurs. Ça prend du monde qui partage, qui rouvre la bouche, qui annonce les oracles de Dieu, qui parle de Dieu, qui parle de la parole de Dieu. Il faut parler. On parle aussi de nos expériences, on parle aussi de ce qu'on comprend. Fait que c'est pour aider tout le monde. Ça prend du monde pour écouter aussi. Puis il y a du monde qui sert dans cela, parce que le monde grandisse puis ils se mettent à servir. Ceux qui parlent, ce sont ceux qui utilisent ce qu'ils ont reçu de Dieu pour distribuer la connaissance révélée par Dieu. C'est pas juste dans le temps de quand l'Église a commencé que ça a commencé. Dieu s'est servi de personnages parce qu'il nous dit si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Quand tu rouvres la bouche, c'est pour parler des déclarations de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les déclarations, les prophéties, les promesses. Tu annonces ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit. Ça, c'est quand tu rouvres la bouche, c'est pour parler de Dieu. Puis là, ça a commencé, comme je vous disais, avant les apôtres, les premiers prophètes qui ont commencé à parler dans le nom de Dieu. Les premiers qui ont commencé à servir, c'est pour annoncer les oracles de Dieu, c'est les premiers prophètes qu'il y a eu au début de la création. Si tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir, ça a commencé déjà à Adam et Ève qui ont reçu les paroles de Dieu puis qui auraient dû se les partager. Mais après ça, il y en a d'autres qui ont invoqué le nom de l'Éternel. Il y a Caïn et Abel, ils ont appris de Dieu la manière qu'il fallait qu'ils s'approchent de Dieu, mais quand ils l'ont su que c'était avec des animaux qu'il fallait offrir en sacrifice, les suivants, les descendants, les concitoyens ont écouté, ils ont écrit ça à quelque part pour qu'on l'ait encore aujourd'hui, ils ont transmis ça, cette connaissance révélée-là, ils ont parlé, ils ont annoncé aux autres, puis ça se transmet de génération en génération, jusqu'à temps que ça soit écrit. Tous les enseignements de Moïse, quand il a reçu ça, lui, il a tout écrit, tout est transmis, tout ce que Dieu a dit, c'est transmis verbalement. Ça a été mis par écrit, mais il y a toujours quelqu'un quelque part qui reprend ce qui a été dit, puis il le reconfesse. Fait que la parole de Dieu, il y a plein de monde qui ont encore la parole de Dieu dans leur bouche, puis c'est leur ministère de répandre la connaissance, la révélation de ce que Dieu nous a donné. C'est un trésor. C'est un trésor. Parce que s'il n'y aurait pas eu ce monde-là pour faire cela, on n'aurait pas la connaissance de Dieu qu'on a aujourd'hui. Si ça nous a été donné dans la Bible, tout ce qui a été enseigné puis révélé, c'est parce qu'il y a eu des porte-paroles, des gens qui ont ouvert la bouche, puis ont répété ce que Dieu disait, puis pour que ça s'advienne finalement être écrit, puis quand ça a été écrit, mais ça a été gardé à travers les siècles, puis on les a encore aujourd'hui. On est en train de se nourrir aujourd'hui des paroles qui ont été proclamées depuis de plus de 2000 ans et plus. Parce qu'il n'y a pas eu d'autre ajout à rajouter à ce qui est écrit. Puis on n'a pas le droit d'ajouter à ce qui a été écrit. À la fin de l'Apocalypse, c'est bien dit, si quelqu'un rajoute quelque chose, Dieu va le frapper des plaies qui sont écrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose de ce qui est écrit, sa part sera retranchée de l'arbre de la vie. C'est pas des farces. On n'a pas le droit de modifier ce qui a été proclamé par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Puis ça, c'est important de comprendre que même aujourd'hui, 2000 ans après, il y a encore des proclamateurs, des gens qui sont utilisés par le Saint-Esprit pour proclamer, pour répéter pour les paroles de Dieu. Puis ça, c'est encore là. Puis ça change des vies. Ça transforme des vies. C'est la puissance de Dieu en action. Il dit, c'est-tu en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou c'est par la prédication de la croix? C'est en prêchant la parole que les gens peuvent être sauvés. C'est en prêchant la parole que les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit. C'est suite à la prédication de la parole. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu qui sauve des vies. Puis si vous êtes sauvé, assis sur votre chaise, sauvé, c'est parce que vous avez entendu prêcher. Vous avez entendu proclamer des choses qui a faites, qui vous a amené à comprendre puis à faire les bons choix. Voyez-vous? Puis si vous grandissez dans le Seigneur aujourd'hui, puis vous êtes utilisé dans le ministère par Dieu, c'est parce que vous avez entendu des choses qui vous ont amené là. Dieu sert de ce qui est là, puis on entend, puis il y a plusieurs sources de recevoir ces paroles-là, mais c'est quand même, il y a quelqu'un à quelque part qui a eu des révélations, puis le monde, quand, ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est pas nouveau, il y a d'autres mondes qui disent la même affaire, puis ça fait partie de la volonté de Dieu qu'on se répète, tout le monde dans les églises se répète presque toute la même chose, qu'on se parle, qu'on peut grandir dans le Seigneur par la prédication de la parole. Dans 1 Pierre 1:10, ça nous dit que les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée, puis on cherchait à comprendre, puis on recherchait à comprendre en faisant des recherches là avec des investigations, ils voulaient sonder les époques, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, puis ils attestaient d'avance les souffrances du Christ puis la gloire qui sera suivie. Puis il leur fut révélé que c'était pas pour eux, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Les prophètes étaient les administrateurs des révélations de Dieu. Puis c'était pas pour eux, c'était pour nous. Donc, il y a eu du monde bien avant nous qui ont prêché les vérités de Dieu, qui nous ont été transmises à travers les siècles. Puis c'était même pas pour eux qui administraient les trésors de Dieu, parce que les révélations, c'est des trésors. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir tout par écrit, puis merci Seigneur, on profite de tout ce qui est là, mais il y a du monde qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir cela aujourd'hui dans nos mains. C'est précieux. La connaissance des choses de Dieu nous permet de croire davantage dans le Seigneur. Le peuple périt faute de connaissance. Tu as besoin de la révélation, tu as besoin de la connaissance. Puis Dieu veut vous utiliser après ça pour répéter. Puis qu'est-ce que vous allez expliquer aux autres, ça va amener des gens à être sauvés. C'est pas juste le prédicateur ou les prédicateurs, c'est tout le monde peut partager ce qu'ils ont appris. C'est un trésor que vous avez dans votre cœur. Toutes les compréhensions des choses de Dieu, c'est un trésor que vous avez dans votre cœur. Puis Dieu, il vous appelle à ouvrir votre trésor et à partager. Pas aux pourceaux, mais à ceux qui sont prêts à écouter. Parce que les pourceaux, eux autres, ils vont vous déchirer avec ce que vous allez dire. Mais à ceux qui ont l'esprit ouvert, gênez-vous pas de partager. Dans Colossiens 1:10, ça nous dit que pour marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On a une croissance, on grandit par la connaissance de Dieu. Donc, c'est important qu'on ait une bonne connaissance basée sur la parole de Dieu. C'est pas juste de prêcher qui compte, c'est de dire ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu qui compte, c'est pas la parole de celui qui parle qui compte. C'est ce que Dieu dit, c'est ça qui nourrit, c'est ça qui sauve. Fait que s'il y a des gens qui sont, parce que leur croyance, leur doctrine, mais ils croient pas à ça, ils croient pas à ça, ils croient pas à ça, ils arrachent des pages dans leur Bible. Ils croient pas à ça, là, la Bible a juste le couvert, deux couverts. Ils ont tous décidé que c'était, ils croyaient pas à rien. Mais ils sont là puis ils prêchent. Ils prêchent quoi? C'est du vent. Tout ce qu'ils disent, c'est une part de temps, vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est des versets qui viennent de la parole de Dieu, les compréhensions des choses de Dieu. Ça va vous faire grandir, parce que la parole de Dieu est une nourriture. C'est une puissance. Ça change des vies. Puis il y a ceux, je vous parle de ceux qui parlent, parce que c'est le don, puis c'est ça ce qu'il nous dit dans 1 Pierre 4, il dit que si quelqu'un parle, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu. Puis il y a ceux qui sont au service avec les capacités reçues de Dieu. Ça dit si quelqu'un remplit un ministère, ça c'est un service. Ministère, c'est pas juste apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il n'y a pas juste ça, là. Il n'y a pas juste 5 ministères. tous les ministères de compassion, des miséricordieux qui disent dans la Bible, des gens qui ont pitié des autres puis qui veulent aider. Il y a du monde qui ont faim, tu leur donnes à manger. Il y a du monde qui sont nus, tu vas les habiller. Il y a du monde qui ont besoin d'être aidés pour faire quelque chose. Tu vas y aller les aider. Mais ceux qui sont capables d'aider les autres, parce que c'est des gens qui aiment rendre des services, puis vous faites ça pour le Seigneur, vous êtes en train de servir le Seigneur, c'est votre ministère. Le Seigneur vous a donné la capacité, puis vous mettez vos dons pour aider les autres. C'est ça le but. Faut s'aider les uns les autres pour qu'on la vie soit plus facile pour les en croyant, on s'entraide, on s'appuie, on s'épaule, on prie les uns pour les autres, puis on se donne des coups de main quand on a de besoin. Il dit dans Dieu, ah oui, avant, c'est si quelqu'un remplit un service pour Dieu, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Dieu t'a donné un petit peu de force. Fais ce que tu peux avec le petit peu de force, puis il ne te demandera pas plus. Dieu a confié des choses, des capacités, des forces. Ah oui, ce prédicateur-là, c'est un grand prédicateur, puis tout l'autre, il dit, moi, je suis juste limité ici, là, à faire ma petite église. Mais on y va avec la force puis les ouvertures que Dieu nous donne. Il nous demandera, il ne fera pas rendre compte à nous qui sommes ici dans une petite municipalité à Beauharnois, comme si tu serais dans une grosse église de 10 000 personnes, puis Billy Graham, la grandeur de son ministère, lui-là, Dieu y avait confié des ouvertures bien plus grandes que ce qu'on a, nous autres, aujourd'hui. Chacun reçoit son ministère comme Dieu l'a décidé. L'important, c'est de faire ce qu'on a à faire avec ce qu'on a, ce qu'on est. On n'en vit pas les autres, puis dire, mais choisis comme ça, je le ferai. Non, tu as une force, là, même si elle est petite, ta force, mais elle est au service des autres. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Apprenons à s'entraider le petit peu qu'on est capable, qu'on s'offre. Et c'est sûr que ça coûte quelque chose, mais on a été sauvés pour cela. Autant qu'on est sauvé pour glorifier Dieu, mais tu glorifies Dieu quand tu es en train de servir avec ce que Dieu t'a confié. Puis quand tout le monde va l'avoir vécu, puis qu'il le maintient en le pratiquant, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir ce que Dieu avait préparé pour vous, puis vous allez vous épanouir, puis vous allez grandir, puis Dieu va multiplier, il va augmenter vos capacités. Vous allez avoir plus de dons confiés par le Seigneur. « Oh, j'aimerais ça avoir don de prophétie. » Il va te dire, « Commence par être fidèle par qu'est-ce que je te donne. » Dieu se rappellera de tous les investissements dans tous les services rendus à ses enfants. Dieu n'oubliera pas ce que vous avez fait puis quelle part vous avez pris pour soulager la souffrance des autres. C'était le plan de Dieu, puis Dieu savait que tu serais dans une église qui aurait tel et tel besoin, puis il savait que tu avais équipé de telle et telle capacité de pouvoir aider ces besoins-là. Go! Donne-toi! Tu es en train de servir le Seigneur, puis Dieu ne l'oubliera pas, puis Dieu va récompenser. Il dit dans Hébreux 6:10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Puis ce que je remarque, là, il dit, Dieu n'oubliera pas l'amour que tu as montré pour son nom. Ah, ça, c'est facile. J'aime Jésus. Êtes-vous capable de dire ça? J'aime Jésus. Ah, c'est facile à dire. J'aime Jésus. Ah, tout le monde est capable de dire j'aime Jésus. Mais tu vas montrer ton amour pour son nom quand tu vas rendre des services aux saints. Oups! C'est dans l'action que tu y montres. C'est facile de dire. Le diable avec, il peut le dire. Même s'il ne croit pas, là, il croit en Dieu, mais il ne croit pas pour suivre Jésus. Là. Mais n'importe qui peut dire ça, j'aime Jésus. C'est facile à dire. Mais c'est en mettant en pratique tes dons dans le service de Dieu. Jésus dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Mets en pratique. Puis là, il va nous dire, sers, mets tes dons au service des autres. Tu vas me montrer que tu m'aimes. Mais là, si on veut grandir là, dans le Seigneur, il faut le faire. On va, si Dieu le permet, j'espère qu'on n'en manquera pas. À chaque occasion qu'on a de pouvoir s'entraider, de pouvoir servir dans l'Église et dans l'évangélisation, faut se donner, frères et sœurs. Si je dis, moi, je fais ma petite vie chez nous, puis je reste toujours chez nous, puis je m'implique dans rien, puis j'écoute la TV à l'année longue, je suis en train d'enterrer mon talent. Ou jouer à des jeux. Dieu veut qu'on sorte et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Il y a des choses à faire. Impliquons-nous à quelque part. Au moins une affaire pour commencer. Puis après ça, vous verrez, le Seigneur va vous augmenter vos capacités, puis vous allez grandir, puis il va vous utiliser dans de plus grandes choses. Ce que Dieu demande à ses administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Être fidèle, là, ça veut dire, t'es en train de le faire. C'est pas juste quelqu'un qui sait qu'il l'a. C'est quelqu'un qui est en train de le faire. Tu sers. Tu te donnes. Il y avait une entrée à pelleter, un exemple. Il y a une entrée à pelleter, il y a du monde qui vient puis ils pètent. Mais il y avait ça à faire, c'est un besoin, puis ils le font. Il y en a d'autres choses à faire. Il y a de la bouffe à donner, mettons, puis on a besoin des... T'emmènes des cannes, puis t'as... T'es pas obligé de t'endetter pour les amener. Tu peux les amener une fois de temps en temps. Tu penses aux autres. C'est ça qui est le point, là. On veut penser aux autres. On a de l'argent, on va aider quelqu'un. De toute façon, on n'emmènera pas quand on va mourir. On meurt, puis tout reste là, puis les autres ils vont savoir comment le dépenser. Mais on n'est pas obligé de laisser notre héritage là. Dans ce moment-là, on n'est pas riche pour Dieu. On est riche pour nous. Ah ouais, 100 piastres dans notre compte, il va rester là. Je dis pas qu'il faut pas économiser rien, là, mais il faut être généreux. Voyez-vous, c'est ça qui est de notre temps, de notre argent, de nos efforts, de nos prières, etc. Dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, ça nous dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs ou des administrateurs des mystères de Dieu. On administre les choses cachées de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Être fidèle, c'est être là. Tu comptes sur quelqu'un, si moi... J'ai une tâche à faire, mettons un exemple, là. Je demande à quelqu'un, pince sur le piton, on record avant la réunion. Si je demande à quelqu'un, puis la personne dit oui, elle répond aux besoins, puis quand ça arrive le temps d'y aller peser, il faut qu'elle se lève, puis qu'elle aille peser. C'est un exemple que je donne. Puis là, je vais dire, wow, elle est fidèle la personne, tu lui demandes de quoi, puis elle fait l'ouvrage que j'y demande. À mon emploi, c'est la même affaire. Si mon boss me donne une run de personnes à aller chercher, il veut même pas y penser à ce que je vais faire. Il sait que je vais aller toutes les chercher. Si tu vas pas les chercher, puis ça me tente pas d'y aller, puis il y a des élèves que je vais pas chercher, je suis pas fidèle à mon emploi, puis je suis sûr que ma job, je la garderai pas longtemps. La moindre des choses, c'est de faire ce qu'il nous est demandé. Amen. Si Dieu nous a confié des affaires, soyons fidèles dans ce qu'il nous a déjà confié, dans nos talents naturels comme les talents spirituels. On se donne au Seigneur, puis on est fidèles. Puis après ça, le Seigneur va dire, « As-tu vu mon serviteur Job, comment est-ce qu'il m'aime, puis il me sert, puis il me craint, puis tu sais. » Dieu connaît ses brebis, puis il sait si on est fidèle ou pas, ou si on est paresseux. Ou si on est des gens disposés. Et plus nous sommes fidèles, plus qu'il nous en confiera davantage. Les plus grandes choses. C'est écrit dans la parole. Notre infidélité dans les choses matérielles va nous bloquer dans notre avancement spirituel. Dans Luc 16, et verset 10 à 12. Jésus qui parle, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si tu es fidèle dans les petites affaires, tu es aussi fidèle dans les grandes. Puis le contraire aussi, il dit, celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Fait que, on n'a pas besoin de dire, « Ah, oh, Seigneur, je n'étais pas capable de remplacer Billy Graham, fait que j'ai pas rien fait comme évangélisation. » Ça, je donne un exemple. Ouais, mais il nous a pas demandé de remplacer Billy Graham. Il dit, « Va évangéliser. » Tu y vas à ton niveau. À rencontre avec tes capacités. Va parler du Seigneur à du monde. Commence par chez vous, commence par ta famille, commence par tes amis, à ton travail. Puis ça va, tu vas faire l'ouvrage, mais ouvre la bouche, parle du Seigneur. C'est une façon de parler. Être fidèle dans les petites choses, pas obligé de penser tout de suite aux grosses. Remplissons déjà toutes les petites choses, puis je suis sûr que notre vie chrétienne va être pas mal remplie. Si donc vous n'avez pas été fidèles, là on est au verset 11 de Luc 16, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, ça c'est dans le vrai argent, parce que là Jésus y inclut dans son enseignement l'argent normal qu'on a, si on est croche dans ce monde financièrement, si on n'a pas été fidèles dans l'argent, qui vous confiera les véritables richesses? Ça veut dire que Dieu regarde comment est-ce qu'on administre notre argent. Puis si on cherche à frauder le gouvernement, à travailler en dessous de la table, sorte de crocherie, là, voler notre prochain, pas remettre qu'est-ce qu'on doit, ou tu sais, toutes sortes de crocheries. Si on marche pas droit financièrement, Dieu le voit, puis il dit, comment Dieu pourra vous confier les vraies richesses célestes? Puis si vous n'avez pas été, au verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est encore la même affaire. Ce que Dieu s'attend, c'est qu'on soit des gens fidèles, des gens fiables, des gens honnêtes, des gens justes, des gens qui mettre en pratique ce que Jésus s'attend. Puis Dieu voit tout, puis Dieu dit, cette personne-là, je peux y faire confiance, je vais y confier encore plus. Puis attendez-vous à recevoir des dons spirituels, comme des bénédictions matérielles. Dieu peut faire ce qu'il veut, puis il va servir, à cause que vous êtes fidèles, à cause qu'il sait qu'il peut vous faire confiance, puis qu'il sait que vous allez réinvestir dans son œuvre. Parce que t'as un petit peu dans tes poches, puis tu prends tout pour toi et tu penses pas aux autres. Dieu le voit, ça. Comment est-ce que t'es? Comment est-ce qu'il te confierait de plus grandes affaires si t'es pas fidèle dans ce qu'il t'a déjà dans tes poches? Amen. Je finis avec un dernier verset. Le Seigneur veut, par les enseignements, perfectionner notre service pour lui, afin que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça le but. Un administrateur, Dieu dit, quel est, dans un verset, quel est donc le serviteur prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur qui, le maître à son arrivée, le trouvera faisant ainsi. Il va l'établir sur tous ses biens. C'est important d'être fidèle, puis que Jésus nous trouve être en train de servir avec ce qu'on a reçu de Dieu, puis être à son service lorsqu'il arrivera, mais c'est les bénédictions totales. Il va nous établir sur tous ses biens. On a à le comprendre, frères et sœurs, puis il faut le mettre en pratique. Il faut profiter des occasions, pas parce qu'on cherche à être vu, parce qu'on veut servir le Seigneur, parce qu'on aime le Seigneur. Dans Luc 12, 42 à 44, c'est le dernier verset. Et le Seigneur dit, mais c'est le verset que je viens de vous lire. Là, je dors un peu. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, en train de servir lorsqu'il reviendra. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Puis ces biens-là, c'est les biens à venir. C'est lorsque le maître reviendra. Parce que là, au bord, on va avoir des tâches à faire, on va avoir des choses à faire. On va être établi dans des postes d'autorité, mais différents. On va avoir des rôles différents. Puis on ne sera pas tous sur le même siège. Il va y en avoir bien des sièges. Des rois et des seigneurs. Mais on va avoir des tâches différentes. Puis il y en a qui vont être là tout simplement, mais pas de récompense. Fait que je vous encourage à être fidèles dans ce que Dieu vous a déjà confié. Servez le Seigneur avec empressement. Puis vous allez tellement profiter que vous allez être toutes dans la surabondance, dans la bénédiction de Dieu. C'est ce qui nous attend. Prions. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de nous faire comprendre qu'on est administrateur de ce que tu nous as confié. Tout est important, que ce soit notre temps, notre argent, nos biens, notre zèle, nos efforts, pour faire avancer ton royaume. Seigneur, donne à chacun de trouver une place. Ben, c'est pas une place, c'est sa place. Que chacun trouve sa place, puis que chacun puisse se mettre à ton service. Travailler dans ton œuvre. Vivre pour le royaume de Dieu. Pis merci de ce que tu vas faire lorsque tu reviendras, puis que tu nous trouveras dans la fonction en train de servir. Tu as des belles promesses, Seigneur, puis on veut tout ce que tu as dans ta parole. Puis merci de ce qui nous attend. On te rend la gloire en toute chose, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.